Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1192 en ce samedi 29 avril. J'espère que tout le monde va bien. Dans ce 1192e numéro, comme toujours, de l'éclectisme avec des couleurs africaines ou du Mississippi profond, de la slide guitare, du skiffle, une tranche de Fab Four, encore de quoi faire jouir ses deux oreilles pendant deux heures. En première heure, deux beaux titres de Riding d'Eric Bibb, le disque du mois. Nous écouterons l'interview de Jean-Pierre Arnaud, bénévole au Festival Jazz sous les pommiers de Coutances, qui célèbre sa 42e édition du 8 au 15 mai. Il vous parlera de sa passion du blues et des deux artistes programmés le mardi 16 mai, Jontavious Willis et Robert Gray. Nous revenons également avec plaisir sur le pléthorique double album de l'Irlandais Van Morrison. Et puis c'est Jackie Emery, notre docteur S. Beatles, qui vous parlera d'un nouveau titre et nous présentera sa cover en version plutôt reggae par la chanteuse jazz Connie Hemingston. En deuxième heure, ce sera une carte blanche au chanteur, guitariste, bassiste, pianiste, auteur, compositeur et interprète Jean-Christophe Panico, qui signe depuis près de 12 ans avec le grand Laurent Chouvrac les plus belles pages du folk blues français. Il nous dévoilera avec bonheur et science quelques coups de cœur pour partager avec vous de belles plages de Lightning Hopkins, Spencer Boren, Eric Bibb, Guy Davis ou du référent Gary Davis. Et on terminera par un retour sur Miettes d'éternité, le magnifique dernier album des roues et combalusiers normands du folk blues en français, Jean-Christophe Panucco et Laurent Choubrac. Mais en attendant, voici un nouvel extrait de l'album du mois, donc Monsieur Eric Bibb Riding, ça s'appelle « Family ».
Family.
Nous venons d'entendre Family sur l'album Dixie Frog Riding d'Eric Bibb. On continue avec cette interview de Jean-Pierre Arnaud pour le Jazz sous les pommiers 2023 où nous écouterons Robert Cray et John Tavius Willis. Jean-Pierre Arnaud est l'invité de Sweet Home Chicago aujourd'hui. On va parler de la soirée blues de Jazz sous les pommiers à Coutances qui se déroulera le 16 mai prochain. Mais auparavant, Jean-Pierre, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
C'est ta première venue, je crois, dans la radio et à la radio 666 tout court. Hein.
Oui, complètement, oui. Je connais pour l'avoir écouté, mais j'étais jamais venu dans les locaux.
Et comme tu vois, les locaux sont tout petits, mais on arrive à faire de la bonne soupe de temps en temps. On essaye toujours.
Oui, c'est ce qui compte.
Et par contre, toi, tu t'occupes d'un grand festival. Est-ce que tu peux nous dire, sachant que l'événement Jazz sous les pommiers existe depuis 1982, ça pose déjà un sacré jalon. Toi, personnellement, Jean-Pierre, tu t'occupes de ce festival, tu es bénévole, ou quelle est ta fonction et depuis quand ?
Alors, je suis bénévole depuis 1993, septembre 93, pour la préparation de l'édition 94.
D'accord, donc ça remonte déjà à un certain temps.
Oui. Et je suis rentré très rapidement dans la commission programmation, avec une spécialité qu'on m'a donnée rapidement sur le blues.
On a tout de suite compris que tu étais un blues fan.
Mais je connaissais Denis avant d'être dans l'équipe, donc il le savait déjà. Mmh. Oui, Denis Lebas, oui.
Voilà, Denis Lebas qui s'occupe du festival depuis 1982, qui l'a créé et qui est toujours...
Ah, il ne l'a pas créé.
Il ne l'a pas créé.
C'est Gérard Roussin qui l'a créé.
D'accord.
Denis est arrivé à la 6e ou 7e édition peut-être.
Ah, ça je ne savais pas. Je pensais qu'il était là depuis le début.
Non.
Très bien. Et enfin, en tout cas, voilà, il est devenu incontournable depuis fort longtemps.
Ouais,
et c'est toujours lui qui s'occupe, bien sûr, y compris de cette édition 2023.
Oui.
Alors, il y aura des belles choses à voir en jazz. Est-ce qu'il y a des amateurs de jazz ? En deux mots, on peut citer quelques noms déjà, choses à ne pas louper.
Oui, ben, Marcus Miller.
Oui.
Marcus Miller. Le premier week-end, la carte blanche à Biréli Lagrène. Oui. C'est quand même un guitariste manouche
hors pair.
Sur trois petites formations différentes. Il commence en solo, après en duo avec Ulf Akelius, le guitariste nordique. Je dis nordique parce que je ne me rappelle plus. Je pense qu'il est norvégien, mais j'en suis pas sûr.
Scandinave.
Ouais. Et en trio pour finir. Et ça va être quelque chose d'intéressant. C'est la première fois qu'il fait une carte blanche, qu'on lui propose une carte blanche à Coutances. Et puis plein de découvertes, comme tous les ans.
Tu sais que la première fois que j'ai pu faire une interview radio, c'était avec une des bénévoles du Festival Jazz sous les pommiers. C'était en 1983. Elle était venue exprès de Coutances, tout comme toi aujourd'hui. Et voilà, ça me ramène carrément 40 ans en arrière, effectivement, ce festival qui existe depuis fort longtemps. Et on a pu applaudir beaucoup d'artistes. Mais avant, peut-être Jean-Pierre, dire qui tu es. Est-ce que tu es musicien ? Je crois que tu joues de la guitare.
Alors oui, je suis guitariste amateur. J'ai joué dans différents groupes.
Qu'on peut citer ?
Très varié, en blues, rhythm and blues, il y a eu Papa DJ et puis Edmond Ramirez, un groupe connu sur le secteur de Coutances principalement.
Coutances et Régnéville un petit peu aussi.
Et Régnéville, oui, bien sûr. Et puis Granville. Et sinon, j'ai joué en duo de guitare acoustique avec Serge Delièvre, Lapin,
qui
nous a quittés l'an dernier. Là, j'ai joué quelques années avec lui. On tournait dans l'Ouest et puis on a joué à Jersey. On a fait deux petites tournées en Allemagne. Enfin, oui.
Et est-ce que vous aviez fait le festival de blues de Caddy Blues de Régnéville-sur-Mer ?
Non, mais alors là, c'était un répertoire très éclectique avec Lapin, donc pas que du blues. Mais il y en avait. Et puis j'ai joué pour finir, parce que maintenant je ne joue plus que pour mon plaisir, et c'est très bien aussi, en trio avec deux frères à moi qui, eux, sont musiciens professionnels, un oboïste et un percussionniste. Et là, on a eu un trio qui s'appelait Syriade. Alors là, il n'y avait plus de blues du tout, il y avait du jazz, il y avait du celtique, du folk, des choses comme ça, du zappa, on a joué des...
Et toujours à la guitare, Jean-Pierre ?
Toujours à la guitare, oui.
Tu chantes ?
Oui, bon, je pense pas que j'ai une voix formidable, ni pour le blues, ni pour le reste, mais enfin oui, je chante.
Mais en tout cas, pour la radio, ça le fait très bien, je peux te le dire, je te le confirme.
Je te remercie.
Et puis, forcément, tous les ans, tu prends un pied pas possible d'aller voir ces artistes-là, parce que quand on est bénévole, on peut aussi être un peu spectateur, ou c'est compliqué ?
Oui, un peu, comme tu dis.
Un peu.
On est un peu spectateur. Alors ça dépend. Après, il y a certains concerts, tout est tellement bien huilé et tout se passe tellement bien qu'on peut s'installer au pied de la scène.
Oui.
Soit devant, soit derrière, à regarder tranquillement une bonne partie du concert. Mais souvent, il y a quand même pas mal de choses à faire entre deux, donc on n'est pas toujours à écouter la musique.
Jean-Pierre, la salle de prédilection de la soirée blues de Jazz sous les pommiers à Coutances, c'est bien sûr la salle Marcel Hélie, qui a une jauge de 1300 spectateurs.
Oui.
C'est quand même pas rien. C'est pas tout à fait la jauge du Zénith de Caen, mais presque. Enfin, je parle de la jauge Zénith de Caen, format Nuit du Blues, bien sûr. Mais il y a une époque, c'était au théâtre, ça se passait tellement bien que c'était très vite plein, non ?
Oui. C'était au théâtre et alors c'était avant que moi je sois bénévole, c'était plus sur des opportunités, la programmation du blues. Il y a eu Buster Benton qui est venu quand même.
1985.
Ah oui, ça je me rappelais pas de l'année, j'y étais, mais je me rappelais pas. Comme
j'avais fait l'interview sur la scène après le concert, je m'en souviens parfaitement.
Et puis John Mayall était venu à l'époque de Coco Montoya, la référence toujours du guitariste. Et quand il est venu, c'était au théâtre, c'est un des premiers concerts qui a été doublé au théâtre.
Il a fallu faire deux représentations le même jour.
Mais pour l'anecdote, c'est ce qu'on m'a dit, j'étais pas dans l'équipe à l'époque, quand on a proposé John Mayall à Denis Lebas. Il connaissait pas.
Il connaissait pas, mais il a vite appris à le connaître.
Oui, tout à fait.
John Mayall qui fête ses 90 ans cette année, qui continue, paraît-il.
Ah, oui, oui.
Des bons souvenirs des années 80. Bah, je me souviens par exemple d'un Jimmy Dawkins, d'un Willie King le même jour. Il y a eu aussi les Sons of Blues, Carl Weatherby et Billy Branch.
Bah, alors, ils sont venus pendant le festival.
Pendant le festival.
Oui, c'est ça, oui.
Ah, ouais. Et voilà, les années 80, moi je me souviens de ces années-là parce que c'est aussi les années d'initiation. Hein. Mais il y avait déjà des grands pointures. Et ensuite, ça a monté en puissance parce que cette fameuse salle Marcelli, Jean-Pierre, on peut y mettre beaucoup de gens, donc on peut aussi avoir une programmation.
En fait, le premier gros concert blues à la salle Marcelli, et je l'ai vu aussi comme spectateur, c'était Buddy Guy.
Oui, ça serait impossible de faire Buddy Guy en 2023, par exemple.
Ah, je sais pas.
Moi, je parle en termes de budget, parce que là, maintenant, il est arrivé.
Alors, si on parle budget, c'est clair que ça sera pas possible.
Bah, ça sera sa dernière tournée, d'ailleurs, cette année, Buddy Guy, parce qu'il va avoir 87 ans au mois de juillet. En tout cas, voilà, Buddy Guy à Coutances. Et puis, il y a eu d'autres artistes comme ça qui ont bien vibré, qui, peut-être certains, t'ont plus marqué au niveau du concert, au niveau du contenu, au niveau de la richesse musicale. Et puis d'autres, il a fallu discuter avec eux. Il y a eu des échanges humains. Comment ça se passe en général?
En termes de concert, moi, j'ai pas de déception, plutôt que de parler de grands concerts connus, parce que je les vois pas en entier, mais j'ai pas eu de déception du tout. Mais dans des très beaux concerts, Duke Robillard avec John Hammond, ça, le concert en trois parties, chaque artiste avait fait sa partie et en duo après, c'était vraiment quelque chose de bien. Si j'étais déçu par un concert, je vais bifurquer un peu, quand Duke Robillard a invité Brian Lee. Duke Robillard, c'est la deuxième fois qu'il venait à Coutances. Je pense qu'il devait avoir des soucis personnels et peut-être même d'alcool parce qu'il avait une fiole qu'il utilisait beaucoup quand il était sur scène. Et en fait, c'est un peu le pauvre Brian Lee qu'on a fait les frais.
Ah ouais,
il est arrivé sur scène en cours de route et ça n'a pas marché. Les gens étaient un peu dépités dans la salle, moi aussi.
Mais ça, c'est une fois sur 30 ou 40 ans.
Oui, voilà. Après, même si Popa Choubi, par exemple, m'a pas enthousiasmé, mais ça, Popa Choubi, on aime ou on n'aime pas.
On aime ou on n'aime pas. Et puis on peut aimer le début des concerts, mais moi, j'ai jamais pu finir un seul concert de Popa Choubi.
Les gens avaient aimé, c'était un concert, ils s'étaient donné, c'était bien. Sinon, non, moi, dans les beaux concerts, Charlie Musselwhite,
bien sûr.
Vraiment Charlie Musselwhite.
Et le même soir, il y avait Eric Bibb, c'était en 2011, ce truc-là. Et alors, franchement, aussi, un trio qui était passé à la phase des années 90, qui ne s'est plus jamais reformé pour cause, Matt Guitar Murphy, Joe Louis Walker, Billy Branch. Aussi, j'imagine, un bon souvenir pour toi.
Alors ça, en plus, en fait, ils sont arrivés les uns après les autres à partir du dimanche. Donc moi, j'étais sur le pont dès le dimanche avec Billy Branch et l'ingénieur du son. Le dimanche après-midi, je suis allé chercher Julius Walker. Je suis allé le chercher à la gare de 40 ans. Et là, donc, à l'époque où le terre-plein de la gare de 40 ans, c'était juste un terre-plein, il n'y avait rien d'aménagé. Et quand il est arrivé là, il ne savait pas où il était.
Et il se demandait si c'était bien là qu'il fallait s'arrêter.
Il faisait un peu la tête. Il était arrivé en avance, lui, pour faire un direct à France Bleu Normandie le lundi. Et donc, moi, j'avais des consignes. Comme le dimanche, il est en off, on lui paye l'hôtel, mais il paye son repas. Donc, je l'accompagne à l'hôtel. Je lui explique les règles du jeu pour le repas du dimanche soir.
Il était seul, précisant.
Ouais. Il me rentre dedans, mais vraiment.
Wow.
Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis musicien, je suis venu en avance pour une émission de radio. Et en plus, il faut que je paye mon repas et tout.
Ah,
j'ai senti que ça allait partir en cacahuète. J'ai dit, bon, OK, on va payer le repas. Il n'y a pas de problème. Et en fait, après, il a fait son émission de radio. Je l'ai retrouvé, moi, le lundi. Et puis, ça s'est super bien passé avec lui jusqu'au départ à la fin. Non, le plus désagréable du lot, en fait, ça a été Matt Guitar Murphy.
Ah bon ?
Il venait de Cannes, il venait de présenter Blues Brothers 2000.
Mais oui.
Il avait un melon pas possible. Il m'a pris en ration dans les loges après le concert. Il m'a incendié parce qu'il me dit « Je veux ce t-shirt ». Je lui dis « Oui, vous me donnez 20 euros ». Enfin, je sais plus, c'était en francs à l'époque. Je lui dis « Et puis, je vais vous en acheter un ». Et puis, il part sur un délire. « Oui, oui, vous utilisez notre nom à nous, les musiciens, avec vos t-shirts et tout. Vous nous exploitez ». Je dis « On n'exploite rien, c'est déjà sous les pommiers ». Je dis « Au contraire, si on vend des t-shirts, ça nous permet de financer l'avenue d'artistes comme vous, mais on vous exploite pas ». Et il est parti en vrille. Et en fait, c'est Joe Louis Walker et Billy Brown Branch qui m'ont dit, allez, viens, ils m'ont emmené dans le couloir. Laisse tomber, il est toujours comme ça. Ah, et puis on était se boire une bière tous les trois, donc ça s'est quand même bien fini.
Bon, ben oui, ça se termine toujours autour d'une bière. Moi, il y a un autre artiste dont je voulais que tu me dises aussi, si tu avais marqué d'une manière ou d'une autre, c'est Bobby Rush, parce que c'est quand même un personnage aussi.
Alors, moi, je ne l'ai pas accueilli, en fait. Je l'ai vu de loin ce soir-là.
D'accord.
Non. Bon.
Et chez Mika Copland, bien sûr.
Ah oui, moi, je me souviens, oui. Ouais. Une fille adorable. Vraiment, elle était toute jeune quand elle est venue à Coutances.
C'est vrai.
Je pense que ça avait été une révélation pour les Coutançais.
Je crois que c'était... Elle est venue une fois ou deux fois, Jean-Pierre?
Non, une fois.
Alors, c'était pas en 99 ou 2000, quelque chose comme ça?
J'ai plus longtemps, en tout cas. Oui, ça remonte à très loin. Elle est venue la même année que la première présence de Yun Sunna à Coutances. Mm-hmm. Ce qui me fait dire ça, c'est que ma femme, qui est aussi bénévole, accueillait le même jour Yun Sunna. Donc, on était tous deux sur le pont avec deux chanteuses artistes différentes. Oui, elle avait fait un super concert. Et puis, elle avait un guitariste, là, Arthur Nilsson, avec elle.
Ah oui, à l'époque, elle était avec Arthur Nilsson. Elle a longtemps joué avec lui. Il y a des tas d'artistes qui sont passés. Moi, je sais que ma première édition, c'était en 85, mais il y a sûrement beaucoup d'artistes auparavant. Il y a toujours quasiment eu du blues tous les ans. Oui. Et cette année, il y a un artiste qui n'est jamais venu. Et quand tu m'as annoncé le nom, il y a quelques mois, je me suis dit, mais attends, mais lui, il va venir à Coutances. C'est juste incroyable. Alors, c'est monsieur Robert Cray.
Oui, c'est étonnant parce qu'on va repartir au départ. On l'avait sur une liste potentielle. Et l'an dernier, moi, j'ai vu qu'il était en tournée en Europe au printemps. Qu'il avait une tournée qui s'arrêtait en Angleterre et qui reprenait 8 jours après en Allemagne. Donc j'ai dit à Denis, écoute Denis, là, il y a peut-être...
Entre l'Angleterre et l'Allemagne, il y a la France.
Il y a un petit créneau, là, si Robert Cray pouvait venir, parce qu'il avait failli venir à une époque avant, mais il y avait eu une histoire de cachet entre ce que demandait le tourneur français et l'agent américain, ça n'avait pas pu se finaliser. Et là, quand même, je dis là, il y a une opportunité. Alors Denis, premier point, on parle du blues et de sa connaissance, dit, mais es-tu sûr que c'est un événement, Robert Cray? Bah, j'ai dit oui, Denis.
Ah bah, quand même.
Alors là, Denis me dit, moi, j'aimerais en savoir plus. Alors, j'y écoute, parce que là c'est un peu, je dis, on va appeler des gens compétents, qui connaissent le propos. Ouais, mais qui t'appelle, toi? Je dis, t'appelles Solbag, t'appelles Marc Loison, t'appelles Julien Cruet, tu vas voir Olivier, le disquaire de l'OCEP, qui est très compétent en blues. Lui, c'est une pointure aussi. Mm-hmm. Et je dis, voilà, tu verras ce qu'ils disent. Alors là, il s'est calmé, il dit, bon, d'accord, moi, j'appelle le rédacteur en chef de Solbag, t'appelles les autres. Et c'est comme ça que je t'avais contacté pour te demander ton avis, en sachant la réponse, sachant toutes les réponses.
Il faut lui montrer le film Hail Hail Rock and Roll, qui est avec Chuck Berry, notamment.
On a une réunion, là, dans 8 jours ou 15 jours. Je vais quand même lui montrer aussi comment s'est présenté dans Solbag, le Robert Cray, pour le concert. Solbag parle de légende. Mmh. Donc, c'est quand même pas n'importe qui.
Moi, je me souviens avoir lu le premier article sur Robert Cray, c'était vers les années 84-85, où il commençait à émerger. Un garçon qui fête cette année ses 70 ans, vraiment quelqu'un d'assis, et en plus, il a une santé de fer, hyper fiable comme musicien, c'est pas le cas de tout le monde. Oui. On va pas parler d'artistes qui sont en fin de vie du tout. Lui, c'est un garçon qui va de l'avant et qui a un répertoire toujours riche. Son dernier album a déjà quelques années, mais il enregistre très, très régulièrement. Il a un répertoire original et puis surtout, c'est un grand chanteur.
Oui. Et en plus, moi, je trouve dans ses concerts, moi, je connais que... Je l'ai vu une fois en concert à La Haye, c'était le North Sea Jazz Festival, où il avait fait la partie son spectacle et il avait fini avec Clapton, donc c'était quand même une belle soirée. Ce que j'ai bien aimé dans son concert, c'est qu'il puise dans toutes les époques de sa carrière. Mmh. Et toutes ses expériences, par exemple, j'ai vu aussi sur des CD live que je peux avoir, il peut reprendre le fameux T-Bone Shuffle qu'il a immortalisé avec Albert Collins et Johnny Copeland
dans Showdown.
Ou bien Playing With My Friend, qui fait aussi régulièrement sur scène. En fait, il met des nouveaux morceaux et puis il fait aussi un best-of de ce qu'il préfère jouer. Donc,
un de ses premiers titres vers 1980 avec Too Many Cooks.
Par exemple,
C'est un truc incontournable. Robert Cray, Robert Cray, moi j'avais vu en 92 en première partie de B.B. King aux Zénith de Paris, et puis ensuite en 2012, bien plus tard, Carol Blues Festival, belle soirée également. Un type qui sur scène fait le boulot, mais je veux dire, c'est pas non plus un grand type chaleureux qui va s'épancher pendant 5 minutes entre chaque morceau, il va enchaîner les titres, et puis il est là, il a une sacrée présence, et surtout... Un très très bon groupe. Richard Cousins, son bassiste, est revenu. Je crois qu'il est toujours là.
Il me semble que c'est lui, oui. C'est ça, c'est aussi au niveau de la qualité de ce qu'il propose en chant aussi. Parce qu'on le présente comme guitariste, parce que moi j'aime beaucoup son jeu. Je suis guitariste, c'est presque de l'orfèvrerie, dentelle, son jeu de guitare.
Il a un jeu d'une fluidité extraordinaire. Ouais.
Mais il a une voix phénoménale.
Voix très soul.
Oui. Et ça, c'est vraiment bien. Non.
C'est pour la soirée du mardi 16 mai, sachant que le lendemain, le mercredi 17, il va se produire sur Clé à la Traverse, une salle que tu connais également, Jean-Pierre. Et puis ensuite, c'est parti pour l'Allemagne. Je crois qu'il y a 2 dates en France, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Trois.
Trois. Alors, il y a aussi Paris peut-être?
Il y a Paris, oui.
D'accord. Oui. Donc voilà, pour cette soirée blues jazz sous les pommiers, c'est un petit peu complet, hein, parce que quand même l'artiste. Mais il y a possibilité, en allant au théâtre le jour même, d'aller consulter
un panneau, voilà, un panneau des post-it.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se séparer d'une place parce qu'ils ne peuvent plus venir, et il faut les appeler. Enfin voilà, c'est de la dernière minute, vraiment.
Oui, les gens, ils mettent deux places, une place avant, deux, c'est mieux encore. et ils mettent un numéro de téléphone. Et puis,
super.
C'est un deal qui se fait. Nous, on ne reprend pas les places non vendues.
Donc tout espoir n'est pas perdu pour les gens qui se disent ah, ils sont en train de parler d'une date qui est déjà sold out. Il y a Jean-Tavius Willis en première partie. Je te laisse vous en parler, ça, parce que c'est intéressant. C'est un garçon qu'on entend sur le dernier album d'Eric Bibb, notamment.
Oui. Et alors, Jean-Tavius Willis commence à en parler depuis juste avant le Covid, mais le Covid, ça a un peu freiné beaucoup de choses. Il était présenté, je vais toujours me faire référence à Soulbag, parmi les 20 jeunes talents de blues qui sont en train de dessiner l'avenir du blues. Hein, dedans, il y avait Kristen Kingfish, j'en passe et d'autres. Et lui, c'est vraiment intéressant parce que d'abord, pour l'équilibre de la soirée, parce que ça va faire une première partie acoustique.
Acoustique, il est tout seul.
Oui, il est tout seul. Peut-être électrique, il peut jouer de la guitare électrique aussi, je ne sais pas.
En tout cas, en solo.
En solo. Et lui, effectivement, c'est quelqu'un, sa philosophie du blues, c'est que le blues, c'est une musique qui se partage.
Ouais.
Il vient du gospel. Hein. C'est une musique qui se partage. Donc, il a toujours montré sa réticence pour les guitaristes qui font le show, vraiment. Mais il dit, le blues, c'est pas que ça. Il faut qu'il y ait un échange avec le public. Et lui, il vient pour ça aussi, pour rencontrer le public, échanger avec lui. Et il dit aux gens, si vous faites du bruit, si vous criez, allez-y, ça ne me dérange pas quand je joue.
Ça va peut-être être l'antithèse un peu d'une soirée que tu nous avais présentée il y a quelques années avec Melvin Taylor plus Joanna Connor.
Ouais.
C'était vraiment très, très guitare ce
soir-là. Oui.
Hein, on en avait pour nous.
Ah oui.
Pour nos décibels. Et là, on va plus être dans l'esprit d'un Cedric Burnside qu'on a vu il y a pas très longtemps.
Oui. Et Cedric Burnside a montré que on peut faire une musique vraiment très roots, vraiment une musique qui vient vraiment des racines, ce que va faire aussi Jean-Tavius Willis devant une salle de 1300 personnes et les gens vont être conquis.
Moi, ce que tu avais déjà prouvé plusieurs fois, notamment en 2010 avec la première partie de Tommy Castro, c'était les Mountain Men.
Oui, voilà.
On était un peu dans le même esprit.
Oui.
Et puis aussi avec ce fameux trio, il y avait Alvin Youngblood Hart notamment.
Oui, Wiggins.
Phil Wiggins
et Corey Harris.
Et Corey Harris.
Ah oui, oui.
Là, ça a été extraordinaire aussi, je crois. 2017 ou 2018, je sais
plus. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, oui.
Voilà. Et donc, bien sûr, on peut jouer du blues acoustique, du blues rousse, même du blues au doigt, à la Robert Johnson, dans une salle de 1300 personnes, parce qu'il y a une belle acoustique aussi, il faut dire.
Ah oui, c'est une belle salle, oui.
Bon.
Some promise of peace while we're living, but we have to get it when we die. Tango. Oh, what's going on? I'm gonna go to a foreign land, make it my home, Mr. Banjo Man.
Et donc cette soirée, mardi 16 mai, ça ne sera pas tout à fait les seuls accents de blues pour tout ce festival. Tu as évoqué d'autres artistes aussi. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui peuvent éventuellement intéresser nos auditeurs qui ne sont pas tous cantonnés uniquement aux trois accords, 12 mesures ?
Moi, je mets Marcus Miller parce que c'est vraiment c'est très accessible d'abord. Et puis, c'est quand même un événement à pas rater, Marcus Miller. Donc, c'est le dernier samedi.
Donc là, on est sur le samedi 20 mai.
Ouais, ouais.
Donc, c'est du samedi 13 mai au samedi 20 mai. C'est toujours sur 8 jours, le festival de Coutances. Voilà. Très bien. Donc, Marcus Miller à ne pas louper le samedi 20 mai, puis vous l'avez compris, le 16 à la salle Marcel Ellis, c'est à partir de 20h. Il vaut mieux être là à 20h déjà.
Ah oui, 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 la queue, de toute façon, elle va être conséquente là. Oui.
Très bien.
Les gens vont vouloir être bien placés.
Petit mot de la fin, Jean-Pierre, par rapport à, par rapport au blues en Normandie, par rapport au fait qu'il faut toujours venir à ce genre de concert parce qu'on n'est jamais déçu.
Oui, c'est vrai que nous, la contrainte à Jazz Sous les Pommiers, qui est un festival de jazz, c'est qu'il y a une soirée blues. Et donc là, le choix se restreint. Et en plus, maintenant, il n'y a plus de Magic Mirror.
Oui.
Donc ça, pour d'autres raisons, on n'arrive plus à remplir le Magic Mirror après le concert. Les gens, ils viennent de se prendre 2h30 de blues de haute volée. Et je vois Muddy Gurdy, la dernière fois, ils n'ont pas rempli. Fred Chapelier n'avait pas rempli non plus sur l'hommage à Peter Green.
Alors que c'était exceptionnel.
Eh bien oui. Et donc là, ça nous a questionnés. Donc
c'est trop tard pour les amateurs de blues. En fait, un concert à minuit ou minuit et demi, c'est plus la peine d'envisager
ça. C'est en semaine. Et puis maintenant, le mardi est tellement bien repéré par les amateurs de blues sur la soirée blues qu'on bouge plus trop là.
Très bien. Une petite question juste en guise de conclusion. Si devait se monter un blues sous les pommiers, est-ce que tu serais de la partie ? Ce genre de concept.
Oui, pourquoi pas. Oui,
tu penses qu'on a le potentiel au niveau du public ?
KD Blues a quand même montré qu'on pouvait faire un festival de blues dans la région de Coutances. Après, ça serait sûrement un plus petit format, mais les équipements devraient permettre, s'il y a des possibilités d'avoir des pointures de haut niveau, parce que la salle Marcel Ellis, dans les années à venir, la salle Marcel Ellis doit devenir une salle événementielle et plus une salle de sport. Ça veut dire qu'il y aurait des aménagements intérieurs, gradins, sièges et tout, parce que le problème de faire venir un gros concert à la salle Marcel Ellis en dehors du festival qui dure 8 jours, c'est qu'il faut monter tous les gradins.
Oui.
Et ça, effectivement...
Ça fait des heures et des heures de boulot, effectivement.
Mais si elle devient une salle d'événements, il y aura quand même... ça permettra d'atténuer l'écoute, je pense. Mais pourquoi pas,
pourquoi pas.
Festival de blues. Mais je ne sais pas qui aurait l'initiative.
Je pensais à toi, moi, Jean-Pierre, tout simplement. Une salle, quand même, qui a accueilli des gens comme, on ne l'a pas cité, Dr. John, Larry Gardner, Robin McKelley, encore il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, c'est une belle, belle salle. Et puis, c'est un festival que beaucoup de gens doivent envier, et même parmi les organisateurs d'autres événements, notamment jazz et puis,
Puis blues, bien sûr. Et puis en plus, ce que les gens apprécient et ce qui fait aussi le cachet du festival, c'est une programmation immense sur un format somme toute assez petit.
Et toute la ville est partie prenante.
Voilà, la plus grande salle, elle fait 1300 places. Et puis après, la plus petite, c'est le cinéma, c'est 30 ou 50 places.
Et puis il y a les Unelles, et puis il y a la rue.
Il y a des concerts promenades, il y a une scène pour les amateurs. Enfin non, c'est assez complet. Et puis on peut se déplacer d'un lieu à l'autre, à pied, tranquillement.
C'est vrai.
Moi, je suis allé une année à Issoudun pour voir San Severino avec Stocello Rosenberg, qu'on avait fait venir l'année d'après. Et je trouvais ça triste, Issoudun, parce qu'en fait, le cœur du festival, où il y a des expos, tout ça, c'est dans le centre-ville. La salle de spectacle, elle est complètement à l'opposé de la ville, il faut prendre la rocade en voiture.
Ah oui, donc c'est excentré.
Et puis c'est à la Toussaint, c'est pas la meilleure saison pour sortir le soir.
Bon, ceci dit, en mai, en Normandie, il fait beau, beau quoi, mais c'est pas toujours gagné.
Mais il y a des buvettes partout, elles sont
pleines. C'est vrai.
À Issoudun, il n'y a pas de buvette extérieure.
Ils avaient Philippe Kerwoe il y a un moment quand
même.
Oui,
mais je l'ai vu.
Jusque-là,
je l'ai vu là, quand j'y suis allé. Oui, tout à fait. C'était même, je sais pas si c'était la mascotte ou c'était un peu la mascotte d'Issoudun, c'était lui l'animal du blues club qui avait lieu dans un bar après les spectacles.
Ouais. Merci Jean-Pierre pour tout ça. On va se donner rendez-vous mardi 16 mai à partir de 20h à la salle Marcel Ellis de Coutances et puis du samedi précédent au samedi suivant, donc pour tout le festival Jazz Sous les Pommiers. Merci, à très bientôt.
À bientôt.
C'était Jean-Pierre Arnaud pour le Jazz sous les pommiers. On a pu écouter Robert Cray avec Anything You Want sur l'album That's What I Heard chez Noodle en 2020. Et puis John Tavius Willis, The World Is in a Tangle en 2019, le mardi 16 mai. Voilà, vous avez rendez-vous ce soir-là. J'espère que vous avez déjà pris vos places, en tout cas, parce que là, c'est vraiment, hein, c'est complet. Sinon, vous faites comme il vous a dit, vous allez voir au théâtre, il y a des petits post-it peut-être qui vous attendront. Voici Van Morrison, Careless Love sur l'album Moving on Skiffle chez Exile. C'est une nouveauté.
Would you pay? You just can't escape my 38. I said, love, more love, oh, careless love. Won't you see what careless love will do? Won't you see what careless love will do? Won't you love some? Just cannot be true. Well, love, oh love, oh love divine.
Love divine.
Then oh love divine.
Love divine.
While you kill my daddy, throw my mother stone wild. Can't be true.
C'était Van Morrison avec Careless Love. On continue avec le 27e épisode de Beatles Song Story par Jackie Emery. Vingt-septième épisode de Beatles Song Story. Salut Jackie.
Bonjour Marco.
Jackie Emery comme une semaine sur deux dans Sweet Home Chicago et puis repris maintes et maintes fois sur d'autres antennes. Hein. Tu sais que maintenant on passe sur le satellite, sur il y a plein de choses quoi. Ça y est, on peut écouter sur le Mixcloud, on peut écouter bientôt sur Netflix, je sais pas, on verra bien.
Oui, non mais j'attends un appel de Paul McCartney.
Ouais. Pour,
des fois j'aurais dit des conneries.
Bah oui, il m'avait dit qu'il t'appellerait donc en même temps. Ça
mais
va
après
pas
je viens de changer de numéro. Pauvre.
On est parti pour se faire un petit fixe là tous les deux. Qu'est-ce qui se passe?
Non, on va boucher un trou.
Ah. Bon, alors parce qu'il y a eu plusieurs interprétations sur ce titre, Fixing Hole.
On va en parler.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong.
Fixing All les Beatles, voilà, c'est avec ce titre qu'on va remplir ce 27e épisode. Jackie, je suis tout oui.
Donc voilà, Fixing All, un morceau qui est sorti, une chanson qui est sortie sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, donc en 1967, hein, le fameux album assez incroyable quand même des Beatles, hein, le plus grand album rock pop de tous les temps. Moi, j'hésite pas à le dire, voilà. Cette chanson a été enregistrée au Regent Studio le 9 février 1967. Et puis, il y a eu des mixages de fait à Abbey Road le 21 février. Alors, pourquoi changer de studio? C'est simplement parce qu'il était Abbey Road était occupé. Ils sont allés dans ce petit studio où, néanmoins, des groupes comme les Kings ou le Stone avaient enregistré. Donc, studio assez intéressant. Nombre de prises, 3.
Mmh.
J'attends ta question.
Ça va. Bah, c'est la première qui a été la bonne.
Non, c'est la 2.
Ah, bon, d'accord.
J'avais une réponse
sur 3. Ça, t'avais la réponse cette fois-ci.
J'avais la réponse. Je dis, j'espère qu'il va me poser la question. Donc voilà, c'est une chanson de Paul, entièrement de Paul, hein, bon, qui va être, comme toujours, signé Paul et John, mais, ou John et Paul plutôt, mais de toute façon, les autres ont travaillé dessus, on leur a apporté leur rime, mais c'est bien une chanson de Paul. Voilà.
Par contre, c'est une chanson qui a été réalisée à 5.
Oui. Tu as raison.
Avec George Martin.
Tu as raison, tu as George Martin, puisque George Martin a participé plusieurs fois. Oui, quoi qu'il en soit, sur cette chanson, je ne saurais trop dire qui fait quoi. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais on ne sait pas exactement qui fait quoi.
Le clavecin, c'est pas George Martin? On sait pas.
Eh bien, il y a doute entre lui et Paul McCartney.
D'accord.
Mais si tel est le cas, si c'est pas Paul McCartney, pourrait considérer que c'est Lennon qui joue de la basse sur sa Fender Bass, là, qu'il a joué pas mal de morceaux à la basse. Mais d'un autre côté, quand on entend la ligne de basse, ça sonne quand même beaucoup plus Paul que John. Alors je ne sais pas.
Donc John à la basse, déjà, c'est contre-emploi.
Les certitudes, c'est George à la guitare et Ringo à la batterie. Bon. Pour le reste, c'est un peu plus particulier. Voilà. Donc c'est une chanson de Paul. Effectivement, il existe beaucoup d'interprétations quant aux paroles de cette chanson. Donc « Fix it all », « boucher un trou », « je bouche un trou ». Je te prends les paroles de Paul. « Je bouche un trou par où rentre la pluie et empêche mon esprit de vagabonder ». Bon, ça peut... En fait, les deux thèses qui vont s'opposer, c'est est-ce qu'il faut le prendre au premier degré et il bouche un trou comme quand on fait une rénovation, ou est-ce qu'il y a une allusion subtile à la drogue ? Voilà, c'est ouais. Ça. Bon, Paul, il est le dernier des Beatles à avoir touché au LSD. Hein. Les autres s'y étaient mis avant. Il avait son petit côté un peu... Il le dit lui-même dans une autobiographie où il dit que c'était un petit peu son côté vieux jeu. Il avait entendu dire que quand on prenait du LSD, il était plus possible d'être jamais le même qu'avant. Donc ça lui faisait un petit peu... mettait un petit peu les trouilles et il résistait. Mais John et George ont fini par le convaincre. Mais à l'époque où il écrit cette chanson, il n'est plus au LSD. Il dit, à ce moment-là, je serais plutôt prendre de la marijuana, mais en tout cas pas du LSD. À la même époque, Paul avait acheté une ferme sans l'avoir. Hein. C'est-à-dire que c'est une ferme qui était extrêmement délabrée. Et il s'est lancé dans la rénovation. Donc il dit qu'à cette époque-là, il avait quand même la tête à la rénovation. Et ça a pu aussi jouer un rôle vraiment au premier degré, c'est-à-dire je bouge des trous. Parce qu'il faut savoir que Paul, quand il achète cette ferme, c'est aussi un des traits de caractère de Paul. Il n'achète pas cette ferme comme un type qui a les moyens de s'acheter une ferme, qui est à la ville, et puis qui dit « voilà, je m'achète une ferme à la campagne ». Non, lui, il met les pieds dedans, hein, et les deux bras, et il met la main dans...
met la main à la patte.
Ah ouais, il bosse dedans, et il a des animaux, et il s'en occupe. Hein. C'est un type assez particulier, Paul.
Bon, enfin, il doit déléguer un certain nombre de choses quand même, parce que...
Ah, il a fait beaucoup de choses avec Linda, là-bas. Ils étaient vraiment tout le temps, tous les deux, mais il a des copains qui sont venus. Mais vraiment, comme toi, tu pourras acheter un truc, il dira, tiens, mes potes, je vous paye à bouffer pour le week-end, et puis on va se refaire le mur de Est, ou la toiture. Il y avait un peu de cet ordre d'idée-là. Voilà. Mais néanmoins, Paul dira... à propos de cette chanson, qu'en fait, elle est un peu dédiée à tous les empêcheurs de tourner en rond. L'idée pour lui, générale de la chanson, serait plutôt le mot « réparation ». Tu vois, vouloir se sentir libre pour laisser son esprit vagabonder, être le maître de sa vie, ne plus subir les contraintes extrêmes des fans, tu vois, de leur invasion incessante, tu vois. Et donc, ça parle un petit peu de tout ça. Alors, je pense que ceux qui disent « non, c'est une chanson sur la drogue », ah, ils ont un peu raison. Ceux qui disent, ouais, non, c'est parce qu'il est rénové, il a eu une image, et puis on sait bien que les Beatles étaient capables de faire une chanson à partir d'un détail quelconque. Mais je crois que ceux-là ont raison aussi. Mais il y avait quand même une idée générale dans la chanson qui était, je veux rester le maître de ma vie. Voilà.
Donc c'est une chanson sur la liberté.
Voilà, on pourrait dire ça, absolument, voilà. Comme je sais que tu es friand d'anecdotes, j'en connais une petite qui vaut son... faisant de cacahuètes, mais qui détermine encore la gentillesse de mon ami Paul. J'ose l'appeler mon ami. Paul, si tu m'écoutes, j'espère que tu ne seras pas... Et donc, il y a un type qui vient frapper à sa porte qui s'appelle Jésus, figure-toi. Oui. Voilà. Et Paul, donc, lui demande ce qu'il veut. Il veut le voir, le rencontrer. Et il lui dit, Paul, donc, l'invite à boire un thé. Tu vois, déjà, tu vois, c'est pas des trucs que ferait n'importe quelle grande star de l'époque qui était McCartney, quoi. Ils vont avoir une discussion ensemble. Je connais pas le fin fond de cette discussion, mais en tout cas, ça va déboucher sur le fait que Paul lui propose d'aller avec lui au studio, Regent Studio, pour assister à l'enregistrement de la chanson Fixin' All.
D'accord.
Et il va effectivement y aller, et ce type va assister à l'enregistrement de la chanson, puis s'en aller.
On voilà. A retenu son nom ?
Bah, on ne le connaît que sous le nom de Jésus, mais moi, je pense que de pouvoir assister à... Je l'avais préparé, je te préviens. À l'enregistrement de Fixin' All, c'est un vrai miracle.
Bon, eh ben voilà, ça s'est fait.
Voilà. Donc on sait que George Martin y a participé, c'est sûr. C'était le clavecin avait été loué au studio exprès pour. Moi, je pense plus que ça soit George Martin.
Paul McCartney qui fait du clavecin aussi.
Non, ouais, on dit que c'est peut-être lui, mais moi je pense que c'est plutôt George Martin. Ça correspond plus quand même à ce qu'il faisait d'habitude. Mm-hmm. Et puis, comme je te dis, je pense pas que ça soit. Mais ça, c'est un avis à demi éclairé d'un musicien moyen. Je dirais que je crois pas reconnaître le jeu de Lennon à la basse. Et par contre, je reconnais bien le jeu de Paul McCartney. Voilà. En tout cas, ça nous donne une incroyable chanson avec une mélodie tout à fait étonnante. Le riff de guitare, moi, je l'adore. Hein. J'ai dû la jouer une fois cette chanson. Chanson, elle a pas été...
C'est George Harrison hein, qui joue la guitare.
Ouais, George Harrison, ouais. Je l'ai joué une fois lors de je sais plus quoi, une fête, le mariage de mon fils, je crois, avec mes enfants, comme ça, pour se faire plaisir, on faisait des trucs de famille. On en avait quand même un peu bavé pour la faire, cette chanson, ouais. Comme il faut, voilà.
En tout cas, c'est une chanson qui a mis assez peu de temps à s'enregistrer. Enfin, tu m'as parlé de trois prises.
Ah oui, il y a trois prises. Ouais.
C'est un peu éclair, quoi. C'est, ils savaient déjà tous comment ça allait s'emboîter.
Ah oui, absolument. Oui, il y a des fois des chansons qui sont enregistrées extrêmement rapidement. Ouais. Et puis, pour ce qui serait du cover, puisque nous allons passer au cover, donc je vais te parler d'une chanteuse de jazz qui n'est pas très très connue. Effectivement, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne la connaissais pas.
Pas vu de la semaine.
Connie Evigson, qui est une chanteuse américaine de jazz et qui a sorti un album qui s'appelle Let It Be Jazz, dans lequel elle reprend pas mal de chansons des Beatles, enfin que des chansons des Beatles d'ailleurs, par lesquelles je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a For No One, Good Day Sunshine, Got To Get You Into My Life, et notamment Fictional, c'est la version que j'ai choisie aujourd'hui. Alors tu verras, c'est rigolo parce que c'est du jazz, mais ça commence un peu, on pourrait se sentir dans un univers reggae un peu. Mm-hmm. Tu vois, voilà.
Et c'est pas une chanteuse toute récente.
Non.
Ça fait un moment qu'elle tourne.
Ouais, je pense qu'elle, je sais pas quel âge elle a. Elle a une soixantaine, 50-60 ans, je sais pas. Bon, je l'écoute de temps en temps parce que j'aime bien le jazz, moi, monsieur.
Voilà, c'était ce titre, Fixing a Hole des Beatles, ici repris par la chanteuse Connie Evigson, que je découvre en même temps que peut-être certains d'entre vous, auditeurs de Sweet Home Chicago.
C'est
C'était le 27e Beatles Song Story avec Jackie Emery. Merci Jackie, on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude avec un nouveau titre, Nowhere Man, c'est ça?
Absolument, Nowhere Man dans 15 jours.
Salut, bye bye.
Salut Marco.
Merci Jackie Emery avec The Beatles Fixing a Hole sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band chez Capitol en 1967 et la reprise en 2003 de la chanteuse jazz Connie Evingston, Fixing a Hole, Let It Be Jazz, Connie Evingston sings The Beatles. On termine cette première heure avec un nouvel extrait du disque du mois Riding, ça s'appelle People You Love, on a déjà entendu ça dans l'émission mais on se régale à chaque fois, c'est Monsieur Eric Bibb.
People you love pass on, but they're not gone. The ones who love you stay by your side. They watch, they pray, they show you the way. Every day they bring heaven closer to you. People we love go back home. Still we're not alone. Somehow they're with us, for love never dies. They watch, they pray, they show you the way. Every day they bring heaven closer to me and you. Can't deny the love that's eternal inside their hearts. They watch, they pray, they show you the way. Every day they bring heaven closer to you. Every day, bringing heaven closer to you.
Eric Bibb avec People You Love chez Dixie Frog pour l'album Riding, disque du mois. Ce sera le tout dernier passage puisque dès la semaine prochaine, on change de mois et on change d'album coup de cœur. Ce sera Bernard Selam, The Boys From The Hood. En deuxième heure, on se retrouve avec l'invité de la semaine, Jean-Christophe Panucco. À tout à l'heure.